Bonjour à tous. Je regardais à un moment donné une annonce, une publicité. C'est la Fédération corporative de funéraires du Québec. Et ils ont un colloque qui s'en vient au mois de novembre prochain sous le titre « La mort, parlons-en ». J'ai trouvé ça intéressant parce que justement ce matin, c'est de ça que je veux vous parler. C'est un sujet quand même assez difficile, mais je trouvais le titre intéressant parce que, d'ailleurs même, j'ai titré mon message « La mort, parlons-en ». Vous savez peut-être que dernièrement, j'ai perdu mon père et d'ailleurs, ça va faire un mois qu'il a été mis en terre. Et j'ai eu le privilège d'aller en Haïti pour lui rendre un dernier hommage. Et là, il y avait beaucoup de gens venus d'ici et d'ailleurs pour nous souhaiter des condoléances ou nous donner leur sympathie ou offrir leur sympathie. Et une des choses que j'ai entendues souvent, c'est « Ton père ne souffle plus maintenant. Ton père est dans un meilleur endroit. Il est allé dans un meilleur lieu. Il est avec le Seigneur. » C'est ce que beaucoup de gens nous ont dit. Mais des fois, malheureusement, pour certains, ce sont juste des vagues généralités. Aucune conviction réelle. Quand on pense à la mort, et j'ai eu l'occasion de méditer ces derniers temps par rapport à ça, un des aspects qui est plus déstabilisant, je dirais, par rapport à la mort, c'est le fait que nous, on ne peut exercer aucun contrôle sur elle. C'est déstabilisant. Parce qu'en général, on veut être en contrôle de ce qui se passe dans nos vies. On veut pouvoir être en contrôle. Mais voilà que ce phénomène, on ne peut rien faire. Et c'est déstabilisant. Selon 1 Corinthiens 15, 26, Paul nous dit que la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera réduit à rien. Et des fois, je dis, j'aurais aimé que ça soit le premier. Mais il sera le dernier ennemi qui sera détruit. Et lorsqu'on pense vraiment à la mort, c'est qu'on voit que toute notre vie est une lutte sans fin contre la mort. D'ailleurs, lorsqu'on pense, même un enfant, dès qu'il naît, l'enfant commence à mourir. Malgré même les soins que la mère, les parents peuvent donner, malgré les attentions que les parents peuvent prendre, mais l'enfant commence à mourir. Et même pour nous, en tout cas moi je sais que la mort se fait de plus en plus proche. On vieillit. Le problème c'est qu'on sait qu'on doit mourir. Ce qu'on ne sait pas quand. On le sait, right? On le sait. Et même si on le sait, mais la mort a quelque chose qui, on dirait, nous prend toujours par surprise. Il y a un auteur haïtien, il s'appelle B.I.C. Et j'ai eu l'occasion, c'est un auteur, compositeur, interprète. Il a écrit ceci en parlant de la mort. Et alors, il écrit en créole, donc j'essaie de faire une traduction libre. Il dit, il y a des gens que la mort vient chercher dans leur salon. Il y en a d'autres qu'elle fait suer jusqu'à l'usure de leurs talons. Il y a des gens que la mort vient chercher comme des vagabonds. Il y en a d'autres, avec respect, elle met un M devant leur nom. C'est vrai, la mort frappe tout le monde. Grand, petit, riche, pauvre. Et la mort maintient beaucoup de gens dans la crainte. Et souvent, on essaie de tout simplement de ne pas en parler ou de parler le moins possible. Ce sujet, comme j'ai dit tantôt, qui met beaucoup de gens mal à l'aise, parler de la mort. On fait les colloques, justement, parce que on veut en parler. La mort provoque souvent la peur, le désespoir, la tristesse. Et à cause de là, il y a beaucoup de gens qui ont recours à des pratiques occultes. On peut penser aux marabouts en Afrique de l'Ouest. On peut penser aux guérisseurs dans nos pays occidentaux, des guérisseurs de toutes sortes, parce que les gens ont peur de la mort. On peut penser aux Ougans en Haïti, parce que les gens ont peur de la mort, la crainte de la mort. Et une des choses par rapport à la mort, c'est que lorsqu'on y pense, c'est que parce que c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Et ça met les gens mal à l'aise. La crainte par rapport à la mort. La mort ne laisse personne indifférent. Personne. Et même chez Jésus, la mort a créé des sentiments, provoque l'indignation, la colère. Personne indifférent. Dans Jean 11, 35, on voit au tombeau de Lazare, on voit que Jésus pleura. Jésus a pleuré. Ce n'était pas le même sentiment que Marie et Marthe, parce que par rapport même à la perte de leur ami Lazare, mais Jésus a pleuré quand il a regardé les conséquences rattachées à la mort par rapport à l'homme. Le péché mène à la mort. Les termes utilisés pour décrire les sentiments de Jésus semblent exprimer vraiment une sorte d'irritation, la colère. Et la colère est dirigée contre la mort elle-même, ennemi que lui est venu vaincre. Il est en colère contre la mort, son ennemi qui retient vraiment les hommes captifs de la corruption et de la honte. Et si la pensée de la mort vous effraie ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une excellente nouvelle pour vous ce matin. J'aimerais vous démontrer pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort. J'aimerais vous encourager à entrevoir votre propre mort avec sérénité. J'aimerais vous montrer comment Jésus peut faire une différence dans ta vie ce matin. Une différence dans ta vie, non seulement pour ce matin, mais pour l'éternité à venir. Et si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jean 11. Et nous allons lire les versets 20 à 27. Peut-être vous mettre en contexte, justement, il est question de la résurrection de Lazare. Lazare, frère de Marie et de Marthe, ami de Jésus. Lazare est tombé gravement malade. Et alors là, les sœurs ont envoyé un message à Jésus qui avait quitté la Judée parce que, bon, les Juifs cherchaient à le mettre à mort. Alors, il est parti. Et là, un messager est allé lui annoncer que Lazare est malade. Mais Jésus, on voit qu'il ne s'est pas précipité au chevet de Lazare. Il est resté 2 jours de plus. Et là, pas parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il avait un plan bien déterminé. Et alors, au moment opportun, au moment convenu, Jésus annonce à ses disciples qu'il faut retourner à Béthanie. Alors, les disciples lui ont dit, mais écoute, t'es-tu fou? Parce que les Juifs veulent ta peau, puis toi, tu veux y retourner. Je comprends, Lazare est mort, mais si tu vas, tu vas le rejoindre. Mais tout compte fait, Jésus décide, et l'explique aux disciples, on doit y aller à Béthanie. Et là, ça fait 4 jours que Lazare est mort, et il est même enterré. Et lorsque Marthe apprend la nouvelle que Jésus est en chemin pour venir, et c'est ce qu'on va lire, les versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, c'est vraiment une joie, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole, la lire. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à la comprendre, Seigneur, ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer. Assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, on voit que quand Jésus est enfin arrivé, ce qu'on comprend, c'est que les sœurs ont envoyé un messager. Si on calcule le trajet, c'est à peu près une journée de marche. Fait que le temps que le messager arrive, Jésus a attendu 2 jours avant de prendre la décision d'aller les voir. Donc, encore une autre journée de marche. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 4 jours qui s'est écoulé. Et lorsque Marthe apprit que Jésus est en route, alors elle part. Elle s'en va à sa rencontre. Et verset 21, on voit que Marthe vient et exprime sa peine. Il dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, c'est une phrase qu'on voit qui est au conditionnel. C'est comme si Marthe est en train de dire, « Seigneur, si tu avais été avec nous, ce n'est pas le cas, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une reproche ou tout simplement qu'elle exprime sa peine? Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le verset 32, c'est que Marie, à son tour, lorsqu'elle va à la rencontre de Jésus, elle fait la même chose, elle dit les mêmes, elle exprime les mêmes sentiments. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Probablement, durant les 4 jours de deuil, elles se sont probablement parlé, disant que « Ah, tu sais, si seulement Jésus était là, si seulement Jésus était là, hein, Marie? » Puis Marthe dit, « Oui, c'est vrai, Marthe, si seulement Jésus était là. » Mais on voit que Marthe, au verset 22, dit, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe, quand même, semble avoir confiance au pouvoir de guérison de Jésus. Elle présume que si Jésus prie le Père, si Jésus prie Dieu, ça se peut qu'il se passe quelque chose dans les circonstances. Il se pourrait qu'il se passe quelque chose. Mais on voit que Jésus va encourager Marthe avec une parole d'espérance. « Ton frère ressuscitera. » Cela veut dire que Lazare serait immédiatement ressuscité. Ça, c'est dans la pensée de Jésus, mais Marthe n'a pas saisi cela. Pour elle, c'est tout simplement comme une formule de politesse, comme le genre de formule de convenance habituellement employée dans ce genre de circonstances. Ah, tu sais, comme on me disait pour mon père, tu sais, ton frère ressuscitera. C'était dans la doctrine de tout juif pieux de croire à une résurrection future, une résurrection lointaine. Et c'était cela que Marthe pense. Elle présume donc que Jésus, comme ses amis qui sont venus de Jérusalem, leur offrir leur sympathie, que Jésus cherche un peu à la consoler en disant « Ton frère ressuscitera à la fin des temps. » D'ailleurs, Marthe lui répond « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je sais. » Marthe croit qu'il y a une résurrection des justes et elle sait que Lazare en fait partie. Alors, on voit que Marthe envisage cette résurrection d'un plus loin, au dernier jour. Pas en tout, ça lui vient vraiment pas en tout que ça pourrait être immédiatement. Il est vrai que la foi en la résurrection future de son frère apaise sa douleur, mais elle ne la supprime pas. Et c'est la même chose pour nous, des fois. La perte d'un proche, la mort subite disparaît lorsqu'un être cher disparaît. La consolation est là, mais la douleur aussi. Et la grande différence, comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13, c'est que nous ne sommes pas affligés comme ceux qui n'ont point d'espérance. Effectivement, la douleur est là. Effectivement. Mais nous ne sommes pas affligés parce qu'on a une espérance. Il est vrai que Jésus ressuscitera les morts au dernier jour, comme Marc en parle, mais il est aussi vrai qu'il ressuscitera son frère dans l'immédiat. Et Marc, dans la perspective du futur, et Jésus va la repositionner dans celle du présent. Jésus lui dit, je suis, dans verset 25, je suis la résurrection et la vie. Alors, c'est l'une des plus belles phrases prononcées par Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Cette phrase est très, très significative et profonde. Il s'agit de la cinquième déclaration des sept déclarations, commençant par « Je suis ». Si on lit l'évangile de Jean, on va trouver sept déclarations que Jésus fait. Et d'ailleurs, dans Jean 6, 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Dans Jean 8, il dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Jean 10, il va parler « Je suis la porte ». Dans Jean 14, par exemple, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean 15, il dit « Je suis le vrai cep ». Et là, la cinquième déclaration, « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, Jean nous révèle différentes facettes de la nature de Jésus en tant que Dieu et de son œuvre en tant que sauveur. Alors, Jésus, on voit que Jésus va s'approprier même le nom de Dieu que Dieu s'est donné. Dans Exode 3, 14, lorsque Dieu s'est présenté comme « Celui qui suis, je suis ». Jésus se fait égal de Dieu. Personne que Dieu ne peut dire « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Personne d'autre que Dieu ne possède en lui la puissance de la résurrection et la vie. Alors, Marthe vient de parler de la résurrection comme un événement lointain, futur. Et alors, Jésus propose cet événement sa personne. Je suis. C'est une réalité, comme étant une réalité. Et une des choses, en déclarant qu'il est la résurrection et la vie, il dit qu'il a la puissance de ressusciter. Il a la puissance de donner la vie, parce qu'il est lui-même la vie. En principe, si tu as un pouvoir de ressusciter, tu pourrais dire, il aurait pu dire que j'ai la puissance de pouvoir ressusciter des morts. Non, il dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus voulait que Marthe puisse appuyer sa compréhension de la doctrine de la résurrection sur sa personne. D'ailleurs, c'est très intéressant le processus que Jésus est en train de faire avec Marthe. Parce qu'on peut croire ce qu'on veut par rapport à peu importe quelle doctrine. Et ici, il est question de la résurrection. Mais si elle ne conduit pas à Christ, c'est en vain. C'est en vain. Une foi qui n'est pas enracinée dans la révélation de l'identité de Christ, cette foi-là est vaine. Et Marthe avait besoin de comprendre que, oui, effectivement, il y a une doctrine de la résurrection future, mais ici, il avait en face de lui celui qui est la résurrection et la vie. Il devait reposer sa foi sur cette personne, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'ailleurs, plus tard, elle va confesser qui est celui qui est la résurrection et la vie. C'est sur lui, sur son œuvre de rédemption que repose notre espérance. Et notre espérance est ancrée dans sa personne. Je suis la résurrection, ça veut dire quoi? Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Je suis la vie, c'est-à-dire quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce que Jésus veut dire, c'est que en moi, le mort vit. Et le vivant meurt. En moi, le mort vit. Par rapport à la résurrection, et le vivant ne meurt pas. Ces deux promesses qui découlent de la déclaration de Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Alors, puisque je suis la résurrection, le mort vit. Et puisque je suis la vie, le vivant ne meurt pas. Alors, première promesse, le verset 25, « Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » Comment comprendre? Comment comprendre cette promesse? Jésus est la résurrection parce qu'il donne la vie nouvelle à des morts. Il régénère les gens qui sont morts dans leurs péchés. Il donne la vie nouvelle. Marthe, qui avait une vague espoir dans une résurrection lointaine à la fin des temps, au dernier jour, Jésus vient lui donner une espérance nouvelle qui commence aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Celui qui met sa confiance en Christ seul pour son salut est passé de la mort à la vie. Et cette vie dure éternellement. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire passe de la mort à la vie. Effectivement, nous aurons à mourir, mais physiquement, mais on est passé de la mort à la vie éternelle. Jésus-Christ nous ressuscitera au dernier jour. Et celui qui croit en moi vivra. Une des choses par rapport à la mort, c'est que notre espérance ne peut pas rester vague. Ton espérance face à la mort ne peut pas rester vague. Tu dois avoir une pleine confiance, une conviction où ce que tu vas après ta mort. Où tu vas passer ton éternité. Elle ne peut pas rester vague. Celui qui croit en Jésus commence dès aujourd'hui une nouvelle vie. Il passe par une résurrection spirituelle. Et la mort physique ne peut pas détruire cette vie nouvelle. Nous sommes déjà ressuscités spirituellement et bien vivants avec Dieu. La mort physique ne pourra pas nous ôter de cette vie. Et un jour, le jour où Jésus reviendra, il va nous ressusciter dans un corps glorieux pour être avec lui pour toujours. C'est notre espérance. Et la résurrection de Lazare qui va venir plus tard, dans le texte, est vraiment une illustration et vraiment une preuve tangible de cette puissance de résurrection et de cette promesse. Il dit qu'il est la résurrection et la vie, et il va le démontrer en ressuscitant Lazare. Et plus tard, lui-même va passer par la mort et il va être ressuscité. Preuve ou prémisse de notre résurrection. Gage de notre résurrection. Parce que lui-même, la mort n'a pas pu le retenir. Et la deuxième promesse, c'est que quiconque vit, croit, au verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus est la vie parce qu'il ne laissera jamais se perdre la vie nouvelle qu'il a donnée. Et ça, c'est une sécurité éternelle. Des fois, on parle de le salut des gens qui doutent par rapport à leur salut, doutent. Jésus-Christ, il n'y a pas de place au doute. Quant à la perte de ton salut, est-ce que je vais... Il te certifie que si tu crois en lui, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. « Il ne mourra jamais spirituellement puisque la mort physique ne peut pas mettre fin à la vie éternelle. Jésus est puissant pour donner la vie nouvelle et il est tout puissant pour nous garder, nous protéger de cette vie jusqu'à la fin. Et c'est fort, le thème ou la négation grecque ici qui dit « ne mourra jamais » est très fort. C'est comme s'il dit « jamais, jamais ne mourra ». Et les questions ici d'éternité, il parle de « pour l'éternité ». Certaines même vont traduire comme ça, c'est « pour l'éternité ». Il y a une sécurité éternelle pour le croyant qui met sa confiance en Christ par rapport à sa destinée finale. Jamais, jamais il ne mourra. Dans Jean 8, 51, il est dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » La certitude ou la conviction par rapport à notre destinée. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque met sa confiance en moi n'a pas à craindre la mort. Jésus est la résurrection et la vie, non seulement pour la fin des temps ou le dernier jour, mais aussi chaque jour de notre vie ici-bas. Est-ce que tu crois cela? Crois-tu cela? Et c'est la question que Jésus pose au verset 26 à Marc. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Que je peux ressusciter ton frère? Alors, c'est intéressant parce que la question n'est pas une question générale. C'est clair, la question est bien posée. Il dit, crois-tu en la résurrection? Ce n'est pas ça que Jésus lui pose comme question. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que c'est moi qui ai le pouvoir de te donner la vie nouvelle dès aujourd'hui et pour l'éternité? Crois-tu que je peux te garder pour que rien, ni la mort, ne vienne détruire cette vie? Alors oui, si c'est oui, tu verras la gloire de Dieu dans la démonstration de la résurrection de ton frère. Tu vas le voir. Et Marc, au verset 27, dit, « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. » C'est une formulation qui est quand même très intéressante par rapport à la réponse que Marc donne. C'est très curieuse comme réponse, mais si juste. Et elle utilise trois titres pour exprimer sa foi. Qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le roi. Qu'il est le Fils de Dieu, donc il est issu de la source de vie. Et troisièmement, qu'il est vraiment celui qui devait venir, le Messie tant annoncé, le Rédempteur annoncé par les Écritures. Croire que Jésus est le Messie promis, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est celui qui est envoyé pour offrir sa vie pour le salut de l'humanité, c'est croire qu'il est la résurrection et la vie. La réponse qu'on voit de Marc, par rapport à la question de Jésus est très appropriée car elle est centrée sur la personne même de Jésus. Elle est centrée sur Jésus. Et là, on voit que Dieu va faire grandir cette foi réelle de Marthe. Dans 1 Jean 5, 1, la Bible nous dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Crois-tu cela? Elle répond, oui, Seigneur. Et c'est bon pour nous d'entendre cette confession. Et on peut s'y associer à Marthe, qui a rendu un témoignage vivant à Jésus. La mort, oui, parlons-en. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Parlons-en, parce que lorsque Dieu créa l'homme, la mort ne faisait pas partie du programme. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en harmonie avec lui, pour qu'on puisse l'honorer, le servir, être en communion avec lui. Mais plutôt de servir Dieu, l'homme a choisi de pécher contre lui. Et en faisant cela, en désobéissant, en rejetant les exigences de Dieu, le péché est devenu le problème de l'homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi, la mort en résulta. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on parle de mort, le mot mort, c'est une description d'une vie séparée de Dieu. L'homme a succombé au péché, il est tombé sur l'empire de la mort. Mort physique. Ah oui, c'est une conséquence du péché. Mort physique, une mort spirituelle et une mort aussi éternelle. L'homme meurt parce qu'il a péché. Et lorsqu'on passe par cette porte de la mort, on reste à jamais. Réconcilié avec Dieu ou séparé à jamais avec Dieu. Il y a deux possibilités. Lorsqu'on passe la porte de la mort, soit qu'on est réconcilié avec Dieu ou encore on est séparé éternellement avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, le Fils de Dieu, celui qui est la résurrection et la vie, est devenu homme, est venu prendre notre condamnation, est allé à la croix prendre, payer la dette de tes péchés, de mes péchés. Et la Bible nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, celui qui est la résurrection et la vie, est mort pour nous. » Dans Romains 5, 8. Jésus peut faire une différence pour toi ce matin. Peut faire une différence dans ta vie. Toi que la mort effraie, toi qui n'as pas d'espérance, Dieu peut faire, par Jésus-Christ, une différence dans ta vie ce matin. Crois-tu cela? Crois-tu qu'il est la résurrection et la vie? Il peut te donner la vie ce matin même. Ce matin même. Et dans Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé, comment? De la mort à la vie. Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui croit n'entre pas en jugement. Celui qui croit est passé de la mort à la vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Pour recevoir Christ comme Seigneur, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois t'abandonner entièrement à lui. Il y a quelqu'un qui a dit que la mort n'est pas du tout le pire qui puisse arriver. Le pire, c'est le fait de mourir dans un état de rébellion contre Dieu. En effet, le pire, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Le pire, c'est de mourir sans être réconcilié avec Dieu. Le pire, c'est de passer cette porte sans avoir fait la paix avec Dieu. C'est de franchir cette porte sans avoir fait ce pas en donnant ta vie à Christ. Pour ton salut, tourne-toi vers Jésus-Christ ce matin et mets ta confiance en lui seul pour ton salut. Pour nous, frères, sœurs, qui avons cru, la mort n'est qu'un sommeil. Pour nous qui avons mis notre confiance en Christ, la mort n'est qu'un sommeil auquel succédera la résurrection. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Notre grande espérance est que Christ, en ressuscitant des morts, assure également la nôtre. Et c'est pour ça qu'on peut passer à travers la mort avec sérénité. Et c'est pour cette raison qu'on peut voir la mort sur un autre angle. On n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, de craindre la mort, parce que Christ l'a vaincu à la croix. Et on peut être tranquille. On peut être tranquille. Attends, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de douleur lorsque vous perdez quelqu'un de proche. Pas du tout. Mais sauf que quant à la destinée finale, on peut être tranquille. On peut se reposer en Christ. Nous voyons la mort autrement parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ne craignez pas la mort parce que Christ l'a vaincu. Christ l'a vaincu. C'est réconfortant. C'est réconfortant de savoir que Christ a vaincu la mort. Et la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Effectivement, mon corps, j'aurai un jour à mourir. Mais je sais, j'ai une espérance. Et que même la mort ne peut venir enlever cette espérance. Christ est ton seul espoir suprême. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec cette parole que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et si tu crois comme Marthe, et tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, celui qui vient, alors il t'accueillera dans son royaume. Tu fais partie, dès maintenant, de son royaume. Que le Seigneur vous garde et que vous puissiez méditer sur ses paroles. Amen.